Alerte bio-agresseur, un podcast qui vous aide à trouver les solutions face aux maladies et ravageurs que vous rencontrez sur vos chantiers et à adopter les bonnes pratiques.
Alerte bio-agresseur, le podcast qui fait de vous un véritable expert.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Alerte bio-agresseur. Alors que le mois d'avril s'installe et que la nature reprend vie sous nos yeux émerveillés, nous sommes de retour pour explorer les mystères et les défis que nous réservent les bio-agresseurs. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de notre experte en la matière, Barbara Dekeyser, pour un échange passionnant et instructif sur les enjeux qui animent nos jardins ce mois-ci. Bonjour Barbara.
Bonjour Jérôme.
Je suis ravi de vous retrouver. J'ai un conseil que j'aimerais partager à nos auditeurs, un conseil sur lequel je suis tombé par hasard ce matin. En cette période délicate et trouble, prenons le temps de planter des graines d'espoir dans nos jardins, car elles sont une promesse de renouveau. Barbara, je vous laisser réagir si vous le souhaitez sur cette citation.
Eh bien, écoutez Jérôme, moi je fonde l'espoir que nos auditeurs, par ces podcasts, se réconcilient s'il est nécessaire, ou en tout cas soient observateurs de la nature qui nous entoure, parce qu'elle est tellement porteuse de bienfaits qu'on aura vraiment rempli notre mission l'un et l'autre si on reconduit quelqu'un à mieux observer la nature, à mieux observer toute cette vie qui nous entoure.
Merci Barbara. Alors, processionnaire du chêne, cochenille du fusain, othurynque sont au menu de cet épisode concocté par vous, Barbara. Alors, commençons par l'entrée, la processionnaire du chêne. Barbara, pouvez-vous nous expliquer en quoi la présence de la processionnaire du chêne peut être problématique pour les espaces verts et quels sont les risques associés à cette infestation pour les humains et les animaux ?
Alors, la processionnaire du chêne, elle a un gros défaut, c'est qu'elle est difficile à identifier. Beaucoup plus difficile en tout cas que la processionnaire du pin, qui elle fait des nids bien visibles sur le pourtour de l'arbre. La processionnaire du chêne, elle est à l'intérieur de l'arbre. Donc elle est très discrète, elle va faire des nids qui sont beaucoup plus sombres, ils sont blancs avec la processionnaire du pin, là ils sont bruns, et elle va les construire sous les grosses branches, sur le tronc. Au stade actuel où on a peu de feuilles sur les chênes, elle est en train d'éclore, elle est capable d'attendre que les premières feuilles apparaissent. Et dans les premiers stades sur avril, elle peut être confondue avec des lichens parce qu'elle est grise avec de longs poils blancs ou grisâtres, mais qui donnent de loin l'aspect d'un lichen sur une branche. La façon de la détecter à l'heure actuelle, ce sera de trouver des petits bouquets complètement défeuillés parce qu'elle se réunit avec ses comparses pour complètement défeuiller une branche avant de passer sur une autre extrémité. Et le danger avec la processionnaire du chêne, c'est qu'elle envoie énormément de poils dans son environnement. Et l'environnement des chênes, si c'est un gazon, ce sera difficile d'aller tondre. Ce sera dangereux pour un chien de s'y promener. Vous aurez forcément des urtications sur les pieds si vous y marchez pieds nus. Si à proximité du chêne, on a une corde à linge, un salon de jardin, un barbecue, une balançoire, un banc sur lequel on aime se reposer. Si on y gare sa voiture, si... on a un jeu d'enfant, et on aura évidemment des poils qui vont se déposer dessus et des risques d'urtication. Pour les humains, ça apparaît au bout d'une petite demi-heure avec, dans un premier temps, des petites ponctuations rouges. Ça peut donner, chez des gens qui ont été un peu plus sensibles, des sortes de papules, c'est-à-dire des boutons d'à peu près 1 cm de diamètre en surépaisseur sur la peau. La démangeaison, elle est très importante. Elle conduit les chats, les chiens à parfois baver, essayer de se gratter la langue, les yeux sur le sol. Elle va conduire les chevaux à être très, très énervés, avoir du coup des conduites à risque, à prendre des galops, etc. En tout cas, il faut vraiment s'alerter après une balade ou après une sortie avec les animaux, avec les enfants. Il faut vraiment s'alerter si on commence à avoir des démangeaisons anormales. En général, pour l'humain, ça va se passer sur le cou, ça va se passer sur le creux du bras, ça va se passer en limite avec les vêtements, donc limite de cuisse si on portait un short, limite de manche si on avait un vêtement à manche courte.
Quelles sont les méthodes de lutte face à ce ravageur ?
Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que la processionnaire, elle ne devient urticante qu'à partir de mai, mais la bonne démarche, c'est d'anticiper et de traiter assez tôt. Mmh. Comme elle n'est pas, comme la processionnaire du pin, une chenille qui va rejoindre le sol pour se transformer, puisqu'elle va faire tout son cycle sur l'arbre, les piégeages, et notamment les piégeages d'interception, ne servent pas, ne permettent pas de rassembler les chenilles. La chenille processionnaire du chêne, elle va passer au-dessus des collerettes. Donc, inutile d'en installer sur les troncs des chênes. C'est la pulvérisation qui permettra de limiter les populations quand on sait qu'elles sont installées, mmh. avec soit le Bacillus thuringiensis, qui reste efficace sur les larves de lépidoptères, soit avec des nématodes, et notamment Stenernema feltiae, qui donne de très bons résultats, des résultats équivalents à ceux du bacillus qu'on utilise depuis plus longtemps. Donc la méthode est plus récente, mais elle donne toute satisfaction. Donc on pense bien, en tout cas, à traiter avant qu'on ait ces premières urtications, parce que plus on intervient tôt et plus les chenilles sont sensibles.
Alors Barbara, vous avez mentionné l'utilisation de produits dont je ne me risquerai pas de les prononcer, de nématodes pour traiter les chenilles de la processionnaire du chêne. Pourriez-vous nous en dire plus sur ces méthodes de lutte et sur leur efficacité dans la gestion de ce ravageur ?
Alors, évidemment, il faut lutter à bon escient, c'est-à-dire bien vérifier qu'on a cette présence ou qu'on a eu l'année précédente une présence de chenilles processionnaires du chêne avant de sortir les pulvérisateurs. Mmh. Les premières générations sont en haut de l'arbre, donc il faut avoir des dispositifs de pulvérisation qui permettent de couvrir la hauteur complète de l'arbre. Il faut évidemment intervenir avec un temps calme, avec peu de risque de pluie, mmh. bien qu'avec les nématodes, on puisse travailler par temps relativement humide.
Barbara, vous avez souligné l'importance d'agir tôt en avril pour traiter les chenilles sensibles de la processionnaire du chêne. Pourriez-vous nous donner des conseils pratiques sur la mise en œuvre de ces traitements et sur les précautions à prendre pour assurer leur efficacité tout en minimisant les risques pour l'environnement ?
Alors, il faut intervenir effectivement sur les premiers stades de la chenille parce que c'est le moment où elle est sensible. Donc, malheureusement, ça conduit à intervenir avant qu'on ait la certitude qu'elle soit là, puisque lorsqu'elle est là et qu'elle est urticante, les produits sont déjà moins efficaces. Il est important d'intervenir donc très tôt, et ça, il faut vraiment le rappeler, lorsque la chenille est détectée, parce qu'on aura beaucoup plus d'efficacité avec les traitements par pulvérisation sur les premiers stades de la chenille. À ce stade-là, en plus, elle n'est pas urticante, donc elle ne risque pas, à cause du traitement de la pulvérisation ou du bruit que causera la soufflerie, elle ne risque pas de larguer un grand nombre de poils, ce qui arriverait si effectivement on est amené à intervenir quand elle est déjà devenue urticante, parce que ces poils urticants, rappelons-le, pour elle, c'est un moyen de défense. Donc quand elle est dérangée, elle les envoie dans l'environnement et elle les envoie a fortiori contre les personnes qui interviennent lorsqu'elle a cet outil de défense. Pour tout ce qui est élagueur, évidemment, il y a une nécessité d'être extrêmement protégé lorsqu'on intervient sur un chêne à cette saison-ci, parce qu'il reste les nids de l'année précédente et tout au long de l'été, parce que les nids eux-mêmes restent très urticants. Ça veut dire que mettre sa main sur un ancien nid qui ne contient plus de chenilles à partir de juillet, mais plutôt des nymphes de papillons, reste très très dangereux. Et évidemment, cette main avec les poils, si vous frottez vos joues, si vous frottez vos yeux, si vous vous grattez le cou, vous porterez les poils ailleurs sur votre corps. Donc le risque est important.
Très bien. Et au menu de cet épisode, Barbara, vous avez souhaité également parler de la cochenille du fusain. Alors pouvez-vous nous expliquer en quoi la cochenille du fusain peut être préjudiciable pour les arbustes et quelles sont les conséquences de son infestation sur leur santé et leur développement ?
Alors la cochenille du fusain, comme son nom l'indique, elle est particulièrement présente sur le fusain et elle peut conduire à des dessèchements, à un affaiblissement de toute façon de l'arbre, mais à des dépérissements complets de rameaux, voire de sujet. C'est pas un parasite anodin, il est théoriquement assez banal mais maîtrisé par les auxiliaires naturels, mmh. et lorsqu'il pullule, il est important d'intervenir parce qu'on pourrait perdre complètement notre plantation. Alors cette cochenille, elle est très caractéristique parce que les plus représentés sont les mâles. Et les mâles ont un aspect très particulier, ils ont une forme de petit bâtonnet, une extrémité un peu plus marron, brune, et l'arrière complètement blanc. Et ils sont en très grand nombre dans la cochenille du fusain. Mmh. La femelle, elle, a l'aspect d'une cochenille à bouclier ou à carapace, donc elle a un aspect gris, un peu comme une huître posée sur les bois ou sur l'arrière des feuilles. Le mâle, lui, étant très présent sur le feuillage et notamment la partie inférieure. Donc, on ne peut pas vraiment confondre cette cochenille avec une autre cochenille. À l'heure actuelle, on a les femelles sur le bois, cet aspect gris. La bonne démarche, je le disais, naturellement, c'est un parasite qui est géré par les auxiliaires. La bonne démarche pour lutter, c'est effectivement de privilégier les auxiliaires naturels au jardin et d'en lâcher certains si la pullulation est là, avec des dépérissements de rameaux déjà. Lâcher, par exemple, des généralistes comme la chrysope ou lâcher des coccinelles éventuellement, Cryptolaemus montrousieri est notamment recommandé.
Vous avez mentionné l'utilisation d'auxiliaires tels que les coccinelles, les chrysopes pour réguler la population de la cochenille du fusain. Pourriez-vous nous décrire comment ces prédateurs agissent et dans quelles conditions leur introduction peut être efficace pour contrôler cette espèce envahissante ?
Alors, les coccinelles, Cryptolaemus, sont des adultes qu'on lâche. Donc là, on les voit assez rapidement se mettre en action sur le végétal. Vous les déposez directement sur la plante ou vous répartissez le support sur lequel elles ont été fournies, qui sont quelquefois des cartons en accordéon. Vous les déposerez directement au milieu des végétaux. La chrysope, comme elle est très vorace, en général sont des œufs qu'on installe dans des petits dispositifs en carton qu'on accroche directement sur les branches. Les deux n'apprécieraient pas les gelées et apprécient les temps printaniers. Donc c'est la meilleure saison pour intervenir avec ces auxiliaires.
Y a-t-il d'autres possibilités de traitement, Barbara ?
Alors effectivement, quand on a vraiment une pullulation déjà très importante, conséquente à l'heure actuelle, comme il peut être un petit peu tôt localement pour lâcher les auxiliaires, je l'ai dit, hein, plus de gelée, donc si on a un mois d'avril un peu frais, il peut être utile de faire un premier nettoyage des arbustes avec des traitements aux huiles notamment, qui peuvent avoir une efficacité sur les populations de cochenilles en général. Donc on prendra bien soin de pulvériser tout, de badigeonner tout l'arbre, les feuilles, notamment les faces inférieures des feuilles où les insectes sont plus présents, et bien rentrer à l'intérieur de l'arbuste pour que le produit soit sous une forme de film continu sur les rameaux.
Très bien. Vous venez d'évoquer l'utilisation de traitements aux huiles pour réduire la population de la cochenille du fusain. Mais quelle est leur efficacité par rapport aux auxiliaires dont vous parliez juste avant ?
Alors les huiles, leur fonctionnement, c'est qu'elles vont étouffer l'insecte. Et comme la cochenille, dans son stade femelle, qui est actuellement présent sur les fusains, est une carapace fixe, elle ne peut pas échapper à la pulvérisation. Et ce film d'huile va l'empêcher de respirer, puisqu'elle fait des échanges avec des échanges respiratoires, des échanges gazeux avec son environnement. Et donc ce film huileux va boucher, obstruer les stomates et la possibilité de respirer de l'insecte. Donc on cible avec les huiles particulièrement les stades immobiles de la cochenille et les femelles, et les premiers stades les plus fragiles avec les très jeunes larves.
Alors dans ce top 3 des bioagresseurs du mois d'avril, nous avons en troisième position l'otiorhinque, Barbara. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi le stade larvaire des otiorhinques est particulièrement dangereux pour les plantes au mois d'avril et quelles sont les conséquences de leur activité souterraine sur la santé des végétaux ?
Alors, l'otiorhinque, c'est vraiment la star des bioagresseurs, c'est-à-dire que c'est un insecte extrêmement généraliste sur l'ensemble du territoire, avec un nombre de végétaux consommés extrêmement large, qui va des feuillus aux conifères. Le stade larvaire, il va durer relativement longtemps par rapport au cycle de l'insecte. Il est évidemment discret, puisqu'on sait rare qu'on tombe sur les larves d'otiorhinque si on ne tamise pas le substrat. Donc, en fait, la plupart du temps, les opérations de jardinage ne permettent pas de le voir. Et pourtant, il va passer toute sa vie, c'est-à-dire entre quelques mois et plus d'une dizaine de mois, à brouter les racines. Donc, en fait, il a un impact sur les végétaux. Il les affaiblit quelquefois considérablement. Il peut même complètement empêcher une reprise sur une jeune plantation parce qu'il va complètement supprimer le système racinaire efficace et donc empêcher la plante de s'installer et de se nourrir.
Et vous venez de souligner que du coup l'otiorhinque était difficile à observer en raison de leur comportement discret. Pourriez-vous nous donner des conseils pratiques pour détecter leur présence, notamment en ce qui concerne l'utilisation de draps clairs et d'autres méthodes de surveillance ?
La présence de la larve d'Oturingue doit nous alerter dès qu'on a les symptômes typiques de l'adulte. Mmh. Ou qu'on a repéré l'année précédente les symptômes typiques de l'adulte. En général, il faut aller observer les persistants du jardin, notamment le lierre, qui va garder les traces des morsures. Parce que l'adulte, lui, va manger le bord du limbe en faisant des encoches très caractéristiques, comme à la perforeuse. Mmh. Donc en fait, il va denter le bord de la feuille. Il ne va pas manger toute la feuille, il va vraiment manger le pourtour de la feuille. Et quand on a ces symptômes-là, on sait qu'on a localement au jardin, vraisemblablement dans tout ce qui est plante hors sol, jardinière, plante en pot, plantation en terrasse, dans tout ce qui est substrat particulièrement léger, qui se réchauffe rapidement, on aura des larves. C'est un bioagresseur extrêmement commun, mmh, qui peut être très facilement importé avec une plantation contaminée, qui est également très commun en production. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très vigilant sur les plantes qu'on laisse entrer au jardin.
Très bien. Les nématodes semblent être la solution. Pourriez-vous nous expliquer comment ces nématodes fonctionnent et comment les appliquer efficacement pour contrôler ce ravageur, en particulier en ce qui concerne le moment et la fréquence des applications ?
Alors, on l'a dit souvent, effectivement, le nématode sur tous les insectes du sol, il est très adapté puisqu'il va lui-même arriver à circuler dans les lames d'eau du sol et il va parasiter les larves qui ont un déplacement évidemment lent dans le sol et donc il a une capacité à être très efficace sur ces insectes-là. Le nématode, en l'occurrence, c'est Heterorhabditis bacteriophora qui est adapté, qui sera épandu en solution à partir du moment, encore une fois, où les gelées ne sont plus un risque. Donc, il faut travailler plutôt fin du mois d'avril pour un certain nombre de jardins. Mmh. Il faut appliquer ce nématode sur un sol, puisque ce sera par les lames d'eau que le parasite circule, le bon ver microscopique circule. Il faut l'appliquer sur un sol humide qui a été arrosé et qui restera humide dans les 3 jours qui suivent le traitement.
Très bien.
Donc il faut éventuellement déclencher des arrosages ou il faut profiter d'une période d'humidité.
Barbara, comme à notre habitude, j'aime bien terminer par une note positive. Existe-t-il une solution naturelle pour faire face à ce bioagresseur ?
Je voulais évoquer les oiseaux au jardin et les passereaux et notamment tous les insectivores qui ont déjà fait leur nid là en avril et qui vont bientôt avoir leur couvée. Il ne faut pas du tout neutraliser le rôle de ces oiseaux au jardin. Il y a un rôle extrêmement positif et une consommation d'insectes qui est très importante, que ce soit en processionnaire du chêne ou en oturingue. Pour privilégier ces oiseaux au jardin, la pose de nichoir est adaptée. En orientant correctement l'entrée, c'est-à-dire qu'il faut essayer d'avoir un espace dégagé pour ne pas risquer de laisser les prédateurs des oiseaux accéder facilement et piéger les entrées et sorties des adultes.
Très bien.
Et en l'orientant direction sud ou ouest pour que les pluies ne puissent pas rentrer dans le nichoir. Et penser à conserver une soucoupe avec de l'eau qu'on changera quotidiennement pour ne pas risquer d'entretenir des naissances de moustiques.
Et nous voici déjà au terme de cet épisode. Barbara, un immense merci à vous pour cette discussion passionnante sur les défis que peuvent rencontrer les paysagistes en ce mois d'avril. Restez connectés pour d'autres conseils pratiques dans nos prochains épisodes. D'ici là, n'oubliez pas de semer ces petites graines d'espoir, d'écouter ce que la nature a à nous apprendre et surtout, prenez soin de vous. Nous vous donnons rendez-vous début mai. Merci encore Barbara et à très vite.
À bientôt Jérôme.
Ce podcast vous a été proposé par le SVP Bioagresseur de l'UNEP,
les entreprises du paysage
et l'app des pros du végétal, plateforme.garden.
Plateforme.garden.
Vous rencontrez un problème de bioagresseur sur vos chantiers ?
Interrogez directement l'expert UNEP sur l'application plateforme.garden.
Ce service est réservé aux adhérents UNEP.